embarquez sur le canal de la philo. Une émission proposée par Victor.
J'ai pas le temps. Nous vivons une époque pressée. 24 heures ne semblent pas suffire à la plupart d'entre nous pour accomplir toutes les tâches professionnelles et domestiques que nous nous infligeons. Pourtant, nous avons l'impression que ce temps bien rempli est en fait fort mal occupé, comme s'il manquait quelque chose. Le temps n'est pas une ressource infinie. Il est la toile de fond de nos existences. Il est insaisissable. On en voudrait toujours plus, mais on est rarement satisfait de ce qu'on en fait. Pourquoi le temps semble-t-il toujours nous échapper, alors qu'il est là?
Au fil de l'eau, embarqué sur le canal de la philo.
Le temps est toujours là. C'est une condition de notre existence. Elle se déroule dans le temps. Rien ne peut nous arriver hors de lui. Et même sur le terrain de la pensée, il est extrêmement compliqué d'en faire abstraction. Dès que nous pensons à quelque chose, nous y pensons sous l'espèce de la durée de l'écoulement. Les philosophes se sont longtemps disputés sur la question de savoir si le temps existait réellement, objectivement, extérieurement à nous, ou s'il n'était qu'une condition, une structure de notre perception de la réalité. Alors, je vous épargnerai ces débats un peu complexes, mais ça ne change pas grand-chose en fait. Ça ne change pas grand-chose au fait que nous nous représentons nos existences dans un écoulement temporel, dans une certaine durée. Le vrai problème pour nous réside plutôt dans la gestion de cette durée, dont le ressenti tend à s'accélérer à mesure que nous vieillissons, comme une gigantesque course contre la montre. Et pourtant, la durée d'une seconde semble bien immuable lorsque je regarde la trotteuse de ma montre. Qu'est-ce qui peut rendre ainsi le temps si mystérieux, si insaisissable? Et surtout, pourquoi notre rapport à lui est-il fondamentalement insatisfait?
J'ai une question.
Et vous pouvez donc continuer à nous envoyer vos questions, vos remarques, tout ce que vous voulez en fait, qui puisse avoir un rapport avec l'émission, sur le mail de l'émission, donc aufildelo@pigouilleradio.fr, donc au fil de l'eau, comme ça se prononce, avec des O partout, O-F-I-L-D-E-L-O, au mépris de l'orthographe, certes, mais pour de la simplicité, @pigouilleradio.fr, vous pouvez aussi passer par le site de Pigouille Radio et le formulaire de contact. Voilà, donc bon, n'hésitez pas, pour donner plus d'interactivité à tout ça, nous attendons donc vos remarques ou questions.
Ça va? Ça va? Pigouille Radio.
Pourquoi le temps semble-t-il ainsi manquer à tout le monde dans nos sociétés pressées? On se plaint de manquer de temps alors que notre époque est sans doute celle qui dégage le plus de temps libre, c'est-à-dire du temps qui n'est pas employé à assurer sa subsistance. Alors, parfois l'excuse de manquer de temps peut être assez commode. Par exemple...
Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte.
Vous savez bien qu'on le fera pas.
Ah bah oui, pas le temps.
Pas l'envie.
Alors, au-delà de la petite blague, hein, c'était extrait du film Re, assez mythique. Parfois, donc, l'excuse de ne pas avoir assez de temps peut servir à masquer d'autres raisons moins honnêtes. Enfin, bon, c'était une parenthèse. La réponse, en fait, à la question « Pourquoi tout le monde semble-t-il manquer de temps ?» tient peut-être en grande partie à toutes les sollicitations attentionnelles dont nous faisons l'objet. Car le manque de temps est en fait à mettre en lien avec le temps que nous passons, peut-être que nous perdons, sur l'ensemble des dispositifs de captation d'attention qui nous entourent. Alors je reviens ici au thème qui m'est cher du smartphone, mais il n'y a pas que celui-là. Néanmoins, un rapide coup d'œil sur les compteurs de temps des smartphones devrait suffire à nous en convaincre. Pour de plus ou moins bonnes raisons, nous y passons donc des temps très importants. Et ce temps pris ici, évidemment, n'est pas disponible par ailleurs. Et le modèle économique de toutes les plateformes numériques joue sur deux ressources limitées qui sont liées entre elles, en réalité, et qui sont donc l'attention et le temps. Alors, on peut espérer augmenter nos capacités d'attention, peut-être de façon un peu illusoire, mais enfin, pourquoi pas. On pourra par contre jamais allonger le temps. Les journées durent toujours 24 heures, alors on peut espérer avoir plus de journées, si des efforts pour rallonger la vie, chers aux transhumanistes, pouvaient aboutir à quelque chose, mais enfin on ne changera pas la durée des journées. Et la sollicitation permanente que nous vivons dans ces journées entraîne un sentiment d'accélération, accélération du temps, avec un paradoxe tout à fait étonnant, qui est qu'un temps occupé passe plus vite qu'un temps vide d'occupation. Alors pourquoi je dis que c'est un paradoxe ? Plus il se passe de choses, plus le temps est rapide. C'est paradoxal parce que normalement, plus d'événements, on pourrait penser que ça devrait être vécu comme étant une durée plus longue que moins d'événements. Lorsqu'il y a plus de choses, ces choses qui se succèdent, ben ça devrait durer plus longtemps. Mais en fait, pas du tout, il se passe le contraire. L'accélération n'est pas liée à un creux, mais à un plein. On ne voit pas le temps qui passe quand on est occupé. Et c'est pourtant le même temps mesuré par l'horloge qui s'est écoulée. Alors, qu'est-ce qu'on distingue ici ? Eh bien, on distingue deux choses. On distingue le temps objectif, mesuré par une horloge. Ce temps est fixe. Bon, la théorie de la relativité d'Einstein montre qu'il peut s'accélérer, qu'il peut s'écouler à différentes vitesses, notamment au cours d'un déplacement. Plutôt d'ailleurs se ralentir. C'est le paradoxe qu'on appelle des jumeaux de Langevin. C'est plus Langevin que Einstein d'ailleurs, à savoir que si on envoyait un jumeau, enfin un de deux jumeaux dans l'espace à circuler à la vitesse de la lumière ou presque, eh bien à son retour de voyage, il serait plus jeune que le jumeau resté sur Terre, puisque à grande vitesse, le temps s'écoule légèrement moins vite objectivement. Bon, ce sont les paradoxes de la relativité, c'est pas le sujet de l'émission. Mais à notre échelle, globalement, le temps objectif, celui des horloges, est un temps stable, et un temps que nous avons en commun. En revanche, ce de quoi nous essayons de le distinguer ici, c'est de la durée. La durée, c'est le temps vécu, vécu par une personne, par un sujet, et qui, elle, peut être plus ou moins longue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une même activité, qui va durer le même temps objectif, va être vécu sur deux temporalités, ou plusieurs, tout à fait différentes. C'est l'exemple que je prends souvent, 55 minutes d'un cours de philosophie, par exemple, peuvent passer très vite pour un enseignant, et beaucoup moins vite pour ses élèves. La durée correspond donc à ce qui est expérimenté par chacun en fonction d'un vécu. Le temps devient donc la toile de fond de notre vécu. Mais en disant ça, on n'a rien résolu, parce que pourquoi peut-il passer plus ou moins vite ce temps ? Comment cette toile de fond peut-elle connaître des variations alors qu'elle est censée être la même pour tous ? Puisque, pour reprendre mon exemple du cours, la sonnerie retentit pour tout le monde au même moment, pour les élèves comme pour l'enseignant, bien que les 55 minutes qui viennent de s'écouler n'aient pas, ne soient pas passées à la même vitesse. On se trouve ici donc dans la situation d'Augustin d'Hippone. Augustin, philosophe qui vivait dans ce qui est l'actuelle Algérie, au IVe siècle de notre ère, qui est considéré comme docteur de l'Église catholique et qui est un saint, ce que vous le connaissez sans doute sous le nom de saint Augustin, canonisé au XIIIe siècle. Et il y a une citation célèbre de saint Augustin.
« Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. » Si je veux l'expliquer à qui me le demande, je ne le sais plus.
L'évidence est absolue lorsque nous n'avons pas besoin de définir le temps, mais il est impossible d'en dire quelque chose. Le temps, c'est ce qui passe quand on est occupé à faire autre chose, pour paraphraser John Lennon qui définissait ainsi la vie. Ce qui passe, mais sans qu'on puisse vraiment en dire plus. Alors heureusement pour nous, Augustin ne s'est pas arrêté là.
Ce qui m'apparaît maintenant avec la clarté de l'évidence, c'est que ni l'avenir ni le passé n'existent. Ce n'est pas user de termes propres que de dire « il y a trois temps, le passé, le présent et l'avenir ». Peut-être dirait-on plus justement « il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur ». car ces trois sortes de temps existent dans notre esprit et je ne les vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'intuition directe. Le présent de l'avenir, c'est l'attente. Mais le temps lui-même, à l'aide de quoi puis-je le mesurer? Avec un temps plus court, mesurons-nous un temps plus long, comme avec la coudée on mesure une solive? Ainsi on voit bien que nous mesurons la durée d'une syllabe longue d'après la durée d'une syllabe brève, disant « l'une double l'autre ». Mais même ainsi, nous n'obtenons pas une mesure exacte du temps. Il peut se faire qu'un vers plus court, s'il est prononcé plus lentement, se fasse entendre plus longtemps qu'un vers plus long, récité plus vite. De même un poème, un pied, une syllabe. D'où il résulte pour moi que le temps n'est rien d'autre qu'une distension. Mais une distension de quoi? Je ne sais au juste. Probablement de l'âme elle-même.
Merci beaucoup à Anne pour la lecture de ce texte. Alors, Augustin s'intéresse ici à la mesure du temps. On dispose d'outils de mesure pour l'espace, des unités qui peuvent permettre de mesurer une longueur. Donc là, il prend l'exemple de la coudée, qui correspond à peu près à, pour nous, 50 cm environ. Donc nous, ce serait plutôt les mètres et les centimètres. Pour mesurer une pièce de bois, par exemple, comme une solive, eh bien voilà, on peut mesurer cette longueur dans l'espace. Dans le temps, c'est plus compliqué. L'unité de mesure du temps, en fait, n'est pas suffisante. Pourquoi ? Parce que une durée qui s'écoule ne peut jamais être contemplée de l'extérieur. Et c'est pour cela que le seul moment qui existe, eh bien, c'est le présent. Seul le présent existe réellement, comme l'affirme donc le début du texte qui dit que, rigoureusement, parler de passé, de présent et de futur n'a pas de sens. La seule chose qui existe, c'est un présent du passé, un présent du présent, un présent du futur. Et donc le passé et le futur, comment existent-ils ? Eh bien, uniquement au titre de la mémoire, ou de l'attente, j'y reviendrai un peu plus tard. La conclusion d'Augustin est que le temps est une distension. Alors c'est assez déroutant ce terme, parce que normalement une distension est un phénomène physique, il s'agit d'une modification de volume, et c'est donc assez déroutant d'employer cette idée à propos du temps, c'est d'autant plus déroutant qu'il l'applique à l'âme, qui n'est pas censée normalement être physique. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair, parce que cette image, elle est quand même assez parlante. Le temps est une distension de l'âme. Si le temps peut varier dans sa vitesse d'écoulement d'une personne à l'autre, sous l'espèce de la durée, donc, c'est parce qu'il est lié à la manière dont notre esprit est plus ou moins rempli, en réalité. Alors, lorsque l'esprit est appliqué à quelque chose, lorsqu'il est concentré, eh ben on peut le voir comme un corps tendu, contracté, rétréci, et dans ce cas-là, le temps passe plus vite. Et lorsque, au contraire, rien ne se passe, l'esprit peut se détendre, peut s'élargir en quelque sorte, se distendre, et dans ce cas, eh bien, la durée va se vivre de manière plus relâchée. C'est le temps de l'ennui, c'est le temps de l'attente, peut-être le temps aussi de la création, de l'imagination. Bon. Mais peu importe, vous voyez, cette idée de, finalement, plus l'âme est occupée, plus elle est concentrée, moins elle se distend, et donc plus le temps, finalement, va passer vite.
Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, on devinait au détour d'un regard entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça taille de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'eau tranquille, on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on y vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps, avec le temps, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Il n'est pas facile de reprendre la parole après ce magnifique texte de Léo Ferré. Bon, je décline toute responsabilité à propos des vagues d'émotions qui vous ont sans doute submergé durant l'écoute de ce titre avec le temps. Donc ça colle assez bien avec notre thème du jour. Alors, ce texte, il nous permet d'entrevoir un aspect assez important de notre relation au temps, à savoir la relation qui nous lie au passé, au temps perdu, dont la recherche fut si chère à Marcel Proust, dans son cycle romanesque fabuleux, La recherche du temps perdu, plus fabuleux de la littérature peut-être. Et si le temps semble toujours nous échapper, c'est parce qu'un instant appartient à la mémoire dès lors qu'on en prend réellement conscience. En ce sens, le moment présent, en fait, il est toujours déjà passé. Les injonctions contemporaines à vivre l'instant présent, à profiter, savourer l'instant, carpe diem, tapent en fait à côté de leur cible. On ne peut pas avoir conscience de profiter de l'instant, comme on le dit si maladroitement, parce que dès que nous analysons ce qui se produit, eh ben il n'y a plus d'instant, c'est passé. La solution pourrait être de ne rien analyser du tout, mais dans ce cas, de quoi profiterions-nous? Nous le saurions pas. Pour profiter, il faut savoir ce qui est en train de se passer. Donc vivre l'instant, comme on nous le dit un peu simplement, ne résout rien, à moins de faire abstraction de la pensée, ce qui empêche d'avoir conscience de ce qu'on vit. Donc le gain est assez minimal en termes de bien-être. Le temps nous échappe donc toujours. Et la mémoire est là pour retracer les continuités de l'existence, malgré le passage des événements. Mais ce temps perdu, donc le passé, ressurgit à sa manière, pas toujours contrôlé. En fait, on peut distinguer à minima deux fonctionnements de la mémoire. Celui qui nous installe dans les souvenirs, d'abord, Alors dans ces cas-là, on va volontairement ressaisir les instants du passé pour se réconforter, parfois pour entretenir certaines plaies aussi, ça arrive. Ça peut être à partir de photos, de lettres qu'on relit sans cesse, qu'on regarde sans cesse. À mesure qu'on avance dans l'existence, ces éléments, ces fragments du passé prennent d'autant plus de valeur. Et ça peut être plus ou moins agréable, mais dans tous les cas, c'est souvent ressassé, quoi. Donc, c'est le premier mode de fonctionnement de la mémoire. Et puis, il y a un autre mode, celui du surgissement, le surgissement du souvenir. Comme par exemple dans l'épisode de la Madeleine de Proust. C'est ce passage monumental, c'est vraiment un monument littéraire, ce passage dans lequel Proust va revenir sur un épisode qui a eu lieu, dans lequel, en rentrant chez lui, un jour où il était déjà à l'âge adulte, sa mère lui propose de goûter, de boire du thé, et lui propose avec une madeleine. Et en fait, la dégustation de cette madeleine va amener le narrateur à lutter avec lui-même, finalement, pour retrouver le souvenir dont cette sensation est le témoignage. Et on a tous vécu hein, cet instant où une odeur, un goût, parfois même un son, vont faire ressurgir comme ça du passé des moments qu'on croyait totalement oubliés. Bon, je vous invite vraiment à aller regarder ce passage de Proust, c'est absolument fabuleux, la manière dont il décrit justement la complexité du processus, et donc la complexité finalement de la mémoire. Donc il est finalement, il est possible de retrouver le temps perdu. Il est possible de retrouver le temps perdu par bribes plus ou moins consciemment choisies. Mais même cette retrouvaille est en partie une reconstruction. Le souvenir n'est pas tant un moment du passé que finalement une rencontre entre le passé et le présent. Le souvenir est toujours un peu reconstruit en fonction de la perspective qu'on a au moment où il se forme dans notre esprit. Ce n'est jamais un témoignage direct du passé. Et on peut dire au fond la même chose de la projection dans l'avenir. De la même façon, en fait, cette projection dans l'avenir n'est pas réellement un moment à venir, mais bien un moment du présent. Parce que si le temps passé nous échappe, le temps futur se définit également comme ce qui échappe à toute anticipation. S'il y a bien une chose qui caractérise la réalité, c'est qu'elle est tissée d'inattendu. On peut se représenter de mille façons un événement à venir. Il sera toujours en décalage avec cette représentation lorsqu'il se produira. C'est une des définitions de la réalité, ce qui est toujours en décalage avec ce qu'on attend. Alors, définir ainsi le temps comme ce qui nous échappe, fondamentalement, c'est toujours ce qui nous échappe, soit dans le passé, soit dans le futur, soit même dans l'instant qu'on ne peut pas saisir. Le définir comme ça, ça permet peut-être de comprendre, pour terminer, pourquoi il nous laisse toujours un peu insatisfaits. Le problème, c'est peut-être pas tant de manquer de temps, c'est d'avoir l'impression de ne pas bien l'employer. Et d'où vient cette impression ? Eh bien, elle est créée par, justement, le fait qu'il nous échappe. Comme il nous échappe toujours, on se dit qu'on pourrait l'employer mieux, qu'on pourrait profiter davantage, qu'on pourrait faire d'autres choses. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'en réalité, on courra toujours derrière lui. On courra toujours après un meilleur emploi de ce temps. Donc s'il ne peut pas en être autrement, ben, peut-être qu'en fait, il faut se faire une raison. Et surtout chercher à arrêter de vouloir gérer ce temps incontrôlable, de vouloir le rationaliser, de vouloir le mesurer en permanence, gagner en efficacité, gagner du temps, d'obsession de notre époque, aller plus vite pour gagner du temps, pour pouvoir faire on sait pas trop quoi, mais toujours le gérer au mieux. C'est une illusion totale, il vous échappera toujours votre temps, donc mieux vaut en prendre son parti, peut-être, et prendre ce qu'il y a. Voilà.
Montez dans la barque des livres.
Alors aujourd'hui, dans la barque des livres, et ce mois-ci, une lecture pas vraiment nouvelle, puisqu'il s'agit d'un texte de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue français qui est mort il y a une vingtaine d'années, et qui avait publié en 1952 une petite brochure dans le cadre des travaux de l'UNESCO qui s'appelle « Race et histoire ». C'est un texte extrêmement intéressant, extrêmement riche, qui est édité sous plusieurs formes et qui se trouve notamment édité avec le texte « Race et culture », autre texte de Lévi-Strauss, aux éditions Albin Michel depuis 2001. Ce sont deux petits textes extrêmement denses, extrêmement riches et courts, faciles à lire, et qui présentent assez clairement, en réalité, les enjeux principaux de l'anthropologie et donc de l'étude des différentes cultures. Alors ce titre « Race et histoire » est un peu trompeur, on peut avoir l'impression que Lévi-Strauss va nous parler du phénomène du racisme. En fait, pas vraiment. Il va, au contraire, essayer de montrer que même lorsque le racisme est mis de côté, bon, ce qui est peut-être pas totalement le cas encore aujourd'hui, mais enfin, si on s'en tient à la science, en tout cas, il ne devrait plus y avoir de considérations racistes, eh bien, on peut retrouver, en fait, ce type de comportement sous l'angle des différentes cultures. Et ce que Lévi-Strauss veut montrer, c'est que nous avons une tendance à traiter la diversité culturelle d'une manière ethnocentrée, c'est-à-dire de manière à considérer que nos sociétés et nos cultures sont finalement les meilleures, les plus avancées. Et parfois, ça se cache même derrière de bons sentiments. Hein. Par exemple, il montre de manière très intéressante que l'idée que les cultures autres seraient en fait à des stades moins avancés, par exemple, que la nôtre, est une idée qui peut tout à fait s'accompagner de bons sentiments, en disant qu'il faut les aider à se développer, par exemple. Et toute la logique de l'aide au développement que l'Occident met en place depuis que l'Occident a cessé de coloniser par la violence le reste du monde, cette logique de l'aide au développement cache en réalité une logique ethnocentriste, c'est-à-dire considérer que la seule façon de se développer, eh bien, c'est celle de l'Occident. Et Lévi-Strauss montre bien que, évidemment, il y a là une fausse piste, et que, en réalité, l'archaïsme de certaines cultures ne doit pas nous faire oublier qu'elles ont la même histoire, une histoire tout aussi longue que la nôtre, derrière elles. Et c'est souvent une illusion qu'on a de penser que les cultures qu'on appelle primitives seraient des états de la culture qui auraient été les nôtres il y a quelques millénaires. En fait, c'est pas du tout ça, hein. Il y a toute une histoire derrière elle. Et donc il le rappelle de manière très brève, très efficace, et en s'interrogeant beaucoup sur la notion de progrès. Qu'est-ce que ça veut dire le progrès et comment est-ce qu'on le mesure ? Pourquoi est-ce que la seule notion qui nous vient en tête quand on pense au progrès, c'est uniquement le développement technique, la production de richesses et d'énergie, alors qu'il y aurait beaucoup d'autres façons finalement d'envisager le progrès. Voilà, donc c'est un texte, oui, extrêmement court. Le texte Race et Histoire lui-même ne fait que 80 pages. C'est très rapide, c'est très efficace et c'est une bonne piqûre de rappel. Pour montrer finalement que le mécanisme du racisme n'a absolument pas besoin du terme de race pour se développer, se déployer sous beaucoup de ses formes. Voilà. Donc ça s'appelle Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. Il y a plusieurs publications, notamment chez Albin Michel, une double publication avec Race et Culture, et ça date de 2001. Voilà. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec de nouvelles thématiques philosophiques.
Retrouvez Au fil de l'eau une fois par mois, le mardi matin en première diffusion, en replay le samedi suivant, et sur le site de Pigouille Radio à l'heure qui vous chante. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au fil de l'eau @pigouilleradio.fr.